découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
Bonjour Patrick.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Merci de nous suivre sur Nutri Radio, Super pouvoir tous les vendredis pour bien terminer la semaine, pour bien entamer la matinée de ce dernier jour de la semaine. Merci de nous suivre également sur www.nutritv.fr. Bon, c'est pas super pouvoir, mais ça nous permet aussi de nous développer. Vous retrouvez des masterclass, des reportages, des documentaires, et je peux vous dire qu'on est en train de travailler beaucoup sur la production de nouveaux contenus, et notamment avec Patrick Martini aussi. On ne dira rien, même sous la torture, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Merci à notre partenaire sur cette émission, Laboratoire Minty, que vous connaissez, mon cher Patrick. Spécialiste en synergie complexe qui allie différents types de phytothérapie, les huiles essentielles, les hydrolats, les extraits hydroalcooliques, etc., etc. Rendez-vous sur mint-ilabs.fr. Oh là, cette adresse, elle me tue.
Non mais non, mais on a une nouvelle adresse. Non,
ah,
non. On peut donner l'adresse zlabo.fr.
Ah, c'est plus facile. C'est plus simple. Et labo au pluriel ou au singulier?
Singulier. Zlabo.
Z-Labo. Mais oui, puisque Z-Trauma, Z-Labo, voilà, on y est, donc Z-Labo.fr. Merci beaucoup, Patrick Martini. Alors, aujourd'hui, dans la lignée de votre thème sur l'évolution de l'humain, nous allons parler d'économie symbiotique. On peut se demander ce que ce sujet peut apporter aux auditeurs de Nutri Radio, mais nos émissions ont pour but d'aider l'homme avoir une vie meilleure, une meilleure santé. Enfin voilà, tout modestement, hein, j'ai envie de dire. On peut dire que la pression financière de notre système économique actuel va clairement rajouter du stress et de la pollution qui sont délétères pour notre santé. Et c'est donc bien un sujet Nutri Radio. Donc, Patrick, qu'est-ce que cette économie symbiotique ?
C'est bien simple, hein. Nous sommes dans une société de consommation. Il faut acheter, acheter, acheter et acheter encore. Et donc, il faut investir largement dans des déchetteries parce que il faut pouvoir jeter les choses rapidement pour en acheter de nouvelles, vous voyez? Mais donc, face à cette pollution actuelle, et puis de toute façon aussi à l'épuisement, hein, de notre modèle de croissance infinie, donc il faut extraire, produire et puis jeter, eh ben, il y a une nouvelle logique qui émerge, c'est l'économie symbiotique. En fait, elle est inspirée du fonctionnement des écosystèmes naturels où les espèces collaborent et coopèrent pour mutualiser les ressources et renforcer leur résilience. Elle propose en fait un modèle où l'activité humaine ne ponctionne plus la nature, mais coopère avec elle pour créer de la valeur partagée. Alors, on avait fait, par exemple, une émission à l'époque sur les réseaux mycorhiziens. C'est ce réseau incroyable de champignons souterrains qui connectent les racines de tous les arbres et qui propose des échanges entre eux. Ben en fait, on voit que dans l'économie symbiotique, c'est un peu la même histoire, les déchets de l'un sont les ressources de l'autre.
C'est vrai que nous sommes dans une société qui exploite peu le déchet. Est-ce que ça veut dire que dans une économie symbiotique, le déchet actuel devient une ressource ?
Oui, voilà, c'est ça. En fait, tout est ressource. Hein, on commence aujourd'hui à recycler le verre, le plastique, le papier. Donc, évidemment, le déchet ne peut pas être jeté n'importe où. Et ça demande une activité de tri de la part de la population. Ceci, et c'est dommage, hein, doit être vraiment, ceci, et c'est dommage, hein, doit être vraiment fait en parallèle avec un exécutif fort. C'est-à-dire que, il faut réprimander un petit peu les déchetteries sauvages, comme on en voit un petit peu de partout. Donc, d'un côté, c'est vrai que nous avons été aussi habitués toutes ces années à ne pas réfléchir et à jeter sans trier, mais en fait, nos ressources, hein, sont pas sans limite. Donc, le premier pilier, c'est l'élimination du concept de déchet. En fait, dans la nature, les déchets des uns sont la nourriture des autres. Hein. Donc, on voit que les feuilles mortes deviennent humus. Hein. Donc, dans l'économie symbiotique, eh ben, elle applique ce principe. On en voit des exemples concrets. Par exemple, au Danemark, il y a un endroit qui s'appelle Kalundborg, où il y a une symbiose industrielle, où il y a des rejets caloriférique et chimiques d'une usine qui deviennent matières premières d'autres usines. Et on voit qu'effectivement, on arrive à avoir une ambiance générale où, en fait, tous ces déchets sont réutilisés et donnent des produits finaux qui sont utilisables par la population. On voit aussi qu'on pourrait regarder localement, en fait, à utiliser les déchets organiques des restaurants, hein, qui peuvent être transformés en compost pour des fermes qui seraient voisines. Donc voilà, il s'agit, c'est une autre façon de penser, parce que il faut concevoir des boucles fermées où toute sortie, en fait, de déchets devient une entrée pour un autre processus.
Ah, ça demande de concevoir l'économie complètement différemment. Il n'y a plus de compétition à outrance, mais il faut du coup développer un certain degré d'intelligence collective là.
Ben oui, c'est ça, il faut savoir coopérer. C'est-à-dire mutualiser les savoirs et les compétences, ben, pour être plus intelligent tous ensemble. Et puis, c'est quelque chose qui était courant, hein. Mon grand-père, qui était boulanger, en fait, il me disait que les ménagères arrivaient le matin dans son magasin avec leur faitout. Donc, elles achetaient le pain, mais utilisaient le four à bois de la boulangerie qui était encore très chaud pour mettre leur ragoût, de manière à ce que, quand elles revenaient à midi, ben, en fait, le gratin ou le ragoût était bien cuit et avait mijoté dans le four à pain de mon grand-père qui était encore chaud. Donc aujourd'hui, en fait, les déchets organiques, hein, font un engrais remarquable, hein. Si vous chassez un sanglier, je peux, avec la peau, vous faire un short des plus modernes et des plus saillants, et surtout très résistants. Vous voyez, le déchet n'existe plus. Donc bien sûr, les circuits courts permettent leur utilisation plus facilement. Et on voit très bien que l'économie symbiotique est à l'opposé de la mondialisation. C'est une autre manière, en fait, d'utiliser notre intelligence, non pas pour une compétition qui ne laisse qu'un gagnant, mais pour un réseau qui enrichit tout le monde.
Alors, il y a quand même des déchets qu'on ne peut pas recycler, Patrick. Des évacuations d'usines, les égouts, les emballages.
Oui, c'est ça. Oui, ben, oui, il y a beaucoup de travail à faire, hein. C'est vraiment, en fait, un changement profond de la société. Hein, le vrai changement, en fait, se situe pas à la fin de la chaîne, c'est-à-dire le traitement des déchets, mais au début. C'est-à-dire qu'il va falloir éco-concevoir les produits et les processus pour que les déchets n'existent plus en tant que tels. Par exemple, au niveau des emballages, bah, au lieu de se demander comment recycler un sachet plastique multicouche, bah, l'approche symbiotique nous demande de développer des systèmes de consignes réutilisables. Alors, il y a déjà des magasins bio qui font ça, ou des circuits de vrac. Hein, on arrive avec son propre sac. Ou alors utiliser des emballages compostables qui deviennent de la nourriture pour les sols. Alors, c'est vraiment compliqué, hein. Pour mes compléments alimentaires, par exemple, il y a 3 ans, on en avait parlé d'ailleurs, j'ai voulu passer des piluliers en plastique à des sachets Kraft compostables en 18 jours. Bon, enfin, nos clients n'ont pas aimé et bon, aujourd'hui, on a toujours nos piluliers plastiques. Mais bon, je suis confiant que dans quelques années, ce sera plus facile à mettre en place.
Oui, il y a du travail à faire encore. Et pour les égouts ?
Oui, alors les égouts, là aussi, c'est un changement drastique, hein, parce qu'une station d'épuration, laquelle existe aujourd'hui, ben, n'est plus qu'une simple usine de nettoyage, mais en fait une véritable bioraffinerie. Elle peut produire du biogaz, donc qui peut être utilisé comme énergie, des nutriments, hein, avec notamment du phosphore pour l'agriculture, de la chaleur, hein, parce que c'est hyper chaud, hein, les stations d'épuration, et puis de l'eau propre pour l'irrigation. Donc, ce qui était un coût d'évacuation, en fait, devient une source de revenus et de ressources.
Une source de revenus, c'est assez fou. Quand on vous écoute, là, on se dit, mais pourquoi on le fait pas. Oui. Alors, on va revenir dans un instant, on marque une pause et on va revenir. Je vais vous demander s'il y a des exemples concrets, parce que là, tout ça, c'est un peu... Parfois, on peut se dire que c'est utopique, mais si vous avez des exemples concrets, on veut bien. Ce sera dans un instant sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
L'économie symbiotique, réapprendre à coopérer avec le vivant. Et si la santé humaine dépendait aussi de la santé économique, face à un modèle linéaire qui épuise la planète, il y a peut-être, et c'est ce que Patrick nous explique, d'autres voies. Et ça, je suis encore tout bouleversé. L'économie symbiotique. Merci Patrick pour cet éclairage. Et maintenant, on passe, si vous venez d'arriver, restez avec nous, car on va rentrer dans des exemples concrets. Est-ce qu'il y en a, des exemples concrets qui marchent de cette économie symbiotique ?
Oui, bien sûr, il y en a plein. Et en fait, j'ai donné plus d'une fois la référence de la communauté de Tamera au Portugal.
Et Tamera, toi aussi. Hein. Ah, pardon, Tamera.
Alors, Tamera. T-A-M-E-R-A. C'est une communauté qui existe depuis 40 ans au Portugal, qui compte à peu près 250 personnes et qui est 100% autonome. Alors, c'est vrai que quand on produit localement sa nourriture et son énergie, et que les outils, par exemple, sont mutualisés, partagés, bah, ça change tout. Donc, cette communauté de Tamera, c'est vraiment un exemple inspirant d'économie symbiotique à tous les niveaux. Donc, par exemple, il y a 40 ans, ils ont acheté plusieurs dizaines d'hectares de terres qui étaient arides. Et bien, en fait, ils ont récupéré et créé ce qu'on appelle la symbiose avec le cycle de l'eau. Et c'est vraiment le travail fondateur le plus célèbre de Tamera. Donc, au lieu de se battre avec la sécheresse initiale du lieu, en fait, ils ont coopéré avec elle. Ils ont régénéré un paysage désertique en créant un paysage d'eau, en faisant des barrages, en faisant des lacs de retenue, de la revégétalisation. Donc, ils ralentissent, ils absorbent et ils stockent l'eau de pluie. Et en fait, cette eau recharge des nappes phréatiques et crée des microclimats qui rendent la vie possible. Donc déjà, alors qu'ils avaient un terrain aride, ils ont créé un terrain qui est extrêmement fertile. Aussi, ils ont créé une symbiose avec les écosystèmes. C'est-à-dire que les gens de Tamera se contentent pas de préserver la nature, hein, ils la régénèrent activement. Donc ils plantent et ils ont des pratiques agricoles qui restaurent la biodiversité et surtout qui restaurent les sols. Donc l'écosystème est retrouvé de cette manière, hein. Et leur rendement en fait est incroyable en fertilité, en résilience et en diversité de types de nourriture. Donc c'est une vraie relation de réciprocité. Et puis il y a une symbiose énergétique, c'est-à-dire que Tamera, depuis le début de son histoire, vise l'autonomie en utilisant au niveau énergétique les flux naturels. Donc ils utilisent le soleil en thermique, en photovoltaïque, de la biomasse en créant du gaz. Donc voilà, c'est vraiment un exemple clair.
Alors, ça, on pourrait dire que l'eau, l'énergie, la biodiversité, c'est la partie technique qu'on comprend assez bien aujourd'hui. Mais il y a une partie à ne pas sous-estimer ou à ne pas laisser de côté, c'est la partie sociale.
Ben oui, c'est ça. Et ça s'appelle aussi la symbiose sociale. C'est la dimension, en fait, la plus originale et certainement la plus importante, hein, chez Tamera. Donc, Tamera travaille à créer une communauté de confiance en repensant les relations humaines. Donc l'entraide, l'amour, la sexualité, la communication non violente et la gouvernance. En fait, tous les sujets sont abordés. Et l'idée, c'est que sans une coopération harmonieuse entre les êtres humains, en fait, la coopération avec la nature reste très, très, très fragile. Bah, c'est logique, hein. Donc l'économie sociale elle-même doit être symbiotique. Les décisions à Tamera sont prises collectivement, les ressources sont partagées, le bien-être du groupe est vraiment un indicateur de réussite. Et ce qui est incroyable, c'est que Tamera partage ces résultats. Hein, ils ont un département de sciences humaines et sociales qui propose des stages, tout le monde est invité. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Donc là, on n'est pas seulement dans une construction de type éco-village, c'est un véritable modèle reproductif de coexistence symbiotique entre les humains et le vivant. Donc on voit bien que l'économie symbiotique est un système qui doit être entièrement intégré. Hein, régénération, écologie, autonomie alimentaire, énergétique et coopération sociale.
Ah bah ça, c'est sûr que c'est un exemple, Patrick. On vous remercie, mais j'ai envie de vous dire, si j'ai envie d'être l'avocat du diable, c'est pour un village de 250 personnes. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça à plus grande échelle ?
Ben oui, alors c'est tout l'objet des recherches de sciences humaines de Tamera, c'est que Tamera, c'est pas un exemple à reproduire, c'est une vraie preuve que le concept marche et qu'il est transposable à toutes les échelles. C'est vrai que bah, plus la population est importante, plus c'est compliqué. Donc il y a des communautés comme les Poumis, hein, que j'avais reçues chez moi à Névache, dont j'ai parlé hein, souvent dans, ces, dans, dans nos émissions, ben, ils sont à peu près 30 000 personnes en symbiose totale avec la nature. On dit souvent que en fait, les économies symbiotiques ne marchent pas dès qu'il y a beaucoup de monde, mais et pourtant, autour du monde, il y a plus de 370 millions de gens qui vivent ainsi, hein, qui vivent en symbiose avec la nature. Donc, c'est possible.
Oh, pardon Patrick, j'avais éteint le micro. Ben oui, c'est ça aussi. Bon, ça, en tout cas, c'est possible. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, on a du mal à voir comment peut se faire la transposition du modèle de Tamera avec l'eau, la forêt, l'agriculture et le social dans une grande ville.
Ben, c'est sûr que la transposition du modèle symbiotique de Tamera aux grandes villes pose un défi d'échelle, hein, c'est évident, mais c'est surtout en fait un défi culturel et politique. C'est pas tant techniquement qu'il y a des solutions techniques. Le véritable obstacle, non, c'est ça, il est pas du tout technique, on a des solutions, mais réside plutôt dans notre capacité à faire évoluer les mentalités vers une conscience écologique et collaborative. Donc sur le plan pratique, les fondamentaux sont exactement les mêmes que pour Tamera. Et cette transposition s'articule autour de, en fait, quatre piliers essentiels. Un, c'est la gestion de l'eau, hein, qui doit devenir cyclique et décentralisée. Donc grâce à l'infiltration locale, des eaux pluviales, via des toits végétalisés, des lacs, des jardins de pluie. Et puis la transformation des eaux usées en ressources. Après, l'énergie, hein, elle doit aussi à être une production décentralisée. Donc chaque bâtiment peut devenir potentiellement un producteur solaire ou autre, hein, et qui sera interconnecté via les réseaux intelligents qui optimisent en fait les flux énergétiques à l'échelle des quartiers. L'alimentation urbaine peut se réinventer par aussi le développement de l'agriculture intramuros, mais aussi, et comme c'était fait avant hein, dans les grandes villes, avec un tissage de ceintures maraîchères périurbaines hein, en agroécologie autour des villes et en utilisant le compostage des déchets organiques qui va refermer cette boucle des nutriments. Et puis le quatrième volet, c'est le volet social. Et c'est ça qui est le plus complexe en fait à transposer, surtout dans l'attrait que propose aujourd'hui la société virtuelle numérique, où notre succès se mesure en termes de followers. Mais là, franchement, je ne vois pas comment, à un moment dans notre évolution, on ne va pas passer de l'individualisme profond à un mode plus fondamentalement humain, qui est le modèle communautaire. Bien sûr, ça nécessite de recréer du lien tangible hein, face à l'attrait croissant du virtuel, mais cela passe par le développement de biens communs concrets, des jardins partagés, des cafés, des fabrications partagées, des laboratoires partagés, et d'une économie solidaire où les coopératives et les ateliers culinaires collectifs redonnent du sens au travail et à la consommation. Donc, la ville de demain ne sera pas un grand Tamera, mais elle devra, pour survivre, en fait, intégrer cette logique symbiotique dans son ADN, en la faisant sienne à son échelle et avec sa complexité.
Alors, vous parliez tout à l'heure des peuples premiers comme les Poumis, qui sont souvent bien mieux intégrés dans la nature. Ils ont une vie saine, loin du stress de notre société occidentale actuelle. Ils ont même le temps de regarder la nature, de s'inspirer du vivant.
Oui, c'est ça, s'inspirer du vivant, c'est important. Et ça s'appelle le biomimétisme. Donc, la nature a à son actif 3,8 milliards d'années de recherche et développement. On l'a vu il y a 2 ans, avec la découverte du modèle collaboratif des réseaux mycorhiziens, qui font d'une forêt non pas un endroit de compétition, mais de coopération. Alors qu'au début, nous, on pensait que la forêt, c'était un endroit où il y avait une compétition à outrance. Ben non, pas du tout. Donc, c'est vrai que le vivant nous inspire. Regardez, par exemple, la découverte du velcro. Le velcro, en fait, a été inspiré des fleurs de bardane. Ou les climatisations passives, en fait, elles sont venues parce qu'on a essayé d'imiter les thermitières qui règlent la température à l'intérieur de la thermitière sans énergie, sans aucune énergie. Donc, il ne s'agit pas seulement d'exploiter la nature, mais de s'en inspirer par son efficacité et puis surtout par sa sobriété.
Ouais, faut pas se foirer, hein, faut pas se foirer. Hein.
Faut pas se foirer.
Ah, il est bon celui-là, il est bon. Comment on pourrait mesurer cette économie symbiotique, Patrick, en termes de rendement, de création, de richesse?
C'est une bonne question parce que la réussite, elle ne peut pas se mesurer uniquement sur du PIB. hein, ou en produits financiers, quoi. Donc la performance elle-même devient symbiotique, parce qu'à la fois elle est écologique, hein, c'est la régénération, elle est sociale, c'est le renforcement du lien et de l'équité quelque part, et elle est économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie viabilité. Donc une entreprise qui assainit une rivière et qui crée du lien social tout en étant rentable et par essence performante dans le modèle symbiotique. Donc pour ma part, j'ai toujours cru au rôle social que doit jouer une entreprise localement. Donc à ma toute petite échelle, mon laboratoire soutient un club de sport pour enfants. Là, on cherche à développer une activité handisport qui est géniale auprès de, parce que bon, c'est vrai que je suis aussi responsable de communautés handicapées, et on fait aussi aujourd'hui beaucoup de communication pour ouvrir un petit peu les consciences sur bien des sujets, et c'est la base d'ailleurs de l'émission Super Pouvoir.
Ah oui, Patrick et son grand cœur, Patrick et son humanité. Merci beaucoup pour tout ça, pour ce partage sur l'économie symbiotique. Si vous voulez réagir, hein, n'hésitez pas, hein, tout ce que vous dit Patrick, si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur le formulaire du site nutriradio.fr. Et on a bien aussi apprécié ces solutions concrètes qu'apporte cette économie symbiotique dans l'évolution de l'humain. En conclusion, bon, c'est pas gagné, mais c'est possible et des modèles existent. On reste optimiste, Patrick.
Oui, c'est ça. Le plus grand apport en fait de l'économie symbiotique, c'est pas technique. On a clairement des solutions, mais il est plutôt philosophique. Elle remplace le récit dominant de la compétition, de la mondialisation, de la domination sur la nature par un nouveau récit qui est celui de la coopération et de la régénération. En fait, nous ne sommes pas les maîtres de la nature, mais une partie intégrante de son réseau. En apprenant à coopérer avec le vivant, nous ne sauvons pas la planète. Non, non, elle nous survivra si on meurt. Hein. Non, nous nous sauvons nous-mêmes en créant les conditions de notre propre prospérité à long terme dans un monde plus résilient et plus juste. Donc l'économie symbiotique n'est pas une utopie, c'est une nécessité biologique et économique. C'est le manuel de survie et de prospérité que je pense qui est nécessaire pour le 21e siècle, qui donnera à notre belle humanité, un véritable super pouvoir.
Merci beaucoup Patrick Martini. Cette mission, bien écoutez, vous la réécoutez en podcast maintenant. Elle est disponible tout de suite sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Patrick.
Au revoir à tous. Au revoir,
et on se retrouve avec beaucoup de curiosité encore la semaine prochaine.
Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutriradio.